France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le Mexique, la musique et le monde, c'est le 36e chapitre, 1959, l'année de tous les espoirs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. En 1959, le Mexique a un nouveau président, Adolfo López Mateos. Son mandat correspond à la dernière époque de ce qu'on a appelé le miracle mexicain. La distribution de terres s'accélère, il réforme les ejidos, ces petites propriétés agricoles collectives, et il stabilise l'économie. Et surtout, il nomme le poète Jaime Torres Bodet au secrétariat à l'éducation, qui crée des écoles normales d'instituteurs et construit de nouvelles écoles à travers le pays. La liberté d'expression est réduite, hélas, et la répression des grèves et des mouvements paysans est particulièrement violente. Mais la réforme de la loi électorale permet heureusement la création de partis d'opposition. Le dynamisme économique favorise la vie culturelle et le cinéma mexicain est encore à l'avant-garde en Amérique latine. C'est l'époque des westerns à la mexicaine, très prisés du grand public. Cette année-là, la chanson du film « L'homme au cheval alezan » et « El hombre del alazán » remporte un franc succès et son auteur, Cuco Sánchez, la chante avec sa guitare et un harmonica digne des futurs westerns spaghetti.
Este es el corrido que ha cantado Gloria de gente grande y cabal. Vamos, vamos. Y que ahora relatan la vida de un hombre, el hombre del alazán. Es alto y delgado, su nombre es Luciano Romero, su apelativo.
¡Mírala! ¡Acá!
Y trae un caballo veloz como el rayo y es de lo más entendido. Luciano le dice a su fiel caballo, arriesgándose el sombrero:
¡Vamos, vaca!
Me llevan los diablos habiendo tanta hembra, no más por una me muero. Pa'l siete hay la sota, para ella el caballo, y para el caballo hay un rey. Y en cosas de amores, el que se enamora pierde porque esa es la ley.
Ce sont quelques metteurs en scène d'envergure qui maintiennent encore le cinéma mexicain à un haut niveau, à commencer par Luis Buñuel. Son film Nazarin a été sélectionné au Festival de Cannes et il voit enfin son rêve se réaliser, tourner un film avec Gérard Philippe. Ce sera La fièvre monte à El Pao, qui grâce à l'acteur français prend une résonance que Buñuel n'avait pas imaginée. Le tournage a lieu à Acapulco et à Mexico entre mai et juin 1959. Sous une dictature d'Amérique centrale, dans une île qui abrite un bagne où sont envoyés de nombreux opposants politiques, le gouverneur est assassiné. Ramón Vázquez, son secrétaire, qui est l'amant de sa femme, le remplace temporairement. Gérard Philippe retrouve ainsi la belle actrice mexicaine María Félix. Bientôt, Ramón mène la rébellion contre le nouveau gouverneur. Et il parvient à le faire arrêter et à prendre le pouvoir. Il entre alors dans un engrenage qui le mène de la lâcheté à la compromission et au crime. Gérard Philippe, dans ce personnage si ambigu, donne au film une portée insoupçonnée. Une dictature succède-t-elle forcément à une autre? Voilà qui est d'actualité en 1959, notamment quand Gérard Philippe et sa femme passent par la Havane sur le chemin du retour et rencontrent Fidel Castro, le vainqueur de la révolution cubaine, porteuse de tant d'espoir. Il dira peu après à ce sujet que les dirigeants, et je cite, l'intéressent beaucoup moins que les mentalités et la vie des peuples. C'est Paul Mizrachi, le compositeur incontournable de la Nouvelle Vague en France, qui a écrit pour l'occasion une musique très mexicaine, en incluant même des marimbas dans l'orchestre français de Jacques Médéhaine.
Compadre, pero se aprende.
La musique du film La fièvre monte à El Pao de Paul Mizrachi par l'orchestre de Jacques Médéhaine. En 1959, Luis Buñuel pleure la mort de son ami, le poète espagnol Manuel Alto Laguirre, qui était devenu comme lui scénariste et producteur de films au Mexique. Autorisé par Franco à revenir en Espagne pour présenter un de ses longs métrages documentaires, il décède dans un accident de voiture près de Burgos. Dans la petite communauté espagnole réfugiée au Mexique, l'heure est décidément à la dispersion. Plusieurs écrivains ont déjà quitté le pays. Parmi ceux qui sont restés, le poète le plus renommé, Luis Cernuda, continue à écrire tout en enseignant au Collège de Mexico, centre universitaire très lié à l'Espagne. De son côté, le compositeur Rodolfo Halfter veut se rénover. Il joue alors les pionniers en s'essayant au sérialisme dans une tripartita pour orchestre créée cette année-là. Halfter songe de plus en plus à l'Espagne. Il aimerait beaucoup y retourner un moment, en espérant que sa citoyenneté mexicaine lui permette d'avoir un visa. Et dans la nervosité de cette musique qu'il expérimente, il semble se souvenir des musiques que Manuel de Falla avait composées pour le théâtre. Le troisième mouvement, sonate de la tripartita de Rodolfo Halffter, Enrique Batis, à la tête de l'Orchestre symphonique de Mexico. Entre 1952 et 1956, l'Espagne est brillamment représentée dans le cinéma mexicain par la chanteuse et actrice Sarita Montiel, qui a trouvé au Mexique une industrie cinématographique autrement plus intéressante qu'en son pays. Elle est devenue une star adulée qu'il a même mené à Hollywood. Elle dira toute sa vie que le Mexique a été sa deuxième patrie. Elle y a d'ailleurs obtenu la nationalité. En 1988, alors qu'elle est en fin de carrière, elle enregistre une chanson qui rend hommage à son cher Mexique. Et sa fragilité la rend encore plus émouvante. « Hier soir, chante-t-elle, j'ai rêvé de toi à nouveau. Tu étais mon prince charmant. » Beau comme les dieux mayas du Yucatán, et ton nom, c'était Mexico.
Anoche volví a soñar contigo en una llanura de cristal. Mi príncipe enamorado, jinete del arco iris, dorado como los dioses antiguos de Yucatán. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían. Luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Anoche volví a sentir tu ausencia, desde la distancia te llamé. El cielo me hacía eco, los montes lo resonaban, el viento lo murmuraba de Chiapas a Santa Fe. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían. Luz de mediodía brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol y el sol me poseía. Tu nombre era México y tus ojos mágicos me sonreían. Luz de mediodía. día brillaba en tu piel. Yo buscaba el sol, yo tocaba el sol, y el sol me poseía.
Sarita Montiel, dans cet hommage à son deuxième pays, le Mexique. En 1959, dans la saison d'opéra du Palais des Beaux-Arts, sur scène pour la première fois, un jeune ténor qui va faire parler de lui. Il fait ses débuts dans le rôle du prêtre de l'opéra de Francis Poulenc, Les Dialogues des Carmélites, créé ce soir-là en espagnol. Il s'agit du tout jeune Plácido Domingo. Ses parents s'étaient établis au Mexique où ils avaient fondé une compagnie de zarzuelas et ils avaient fait venir les enfants Plácido et María José en 1948. 10 ans plus tard, Plácido chante son premier grand rôle dans la ville de Veracruz, celui de Javier dans la zarzuela Luisa Fernanda de Moreno Torroba. Plácido Domingo avait 17 ans. L'œuvre se déroule à la fin du 19e siècle et Javier, jeune militaire, revient à Madrid pour retrouver celle qu'il aime. « Je n'ai jamais oublié, chante-t-il, ce quartier tranquille de Madrid où j'ai passé mes jeunes années. » Ce sera un des rôles favoris de Plácido Domingo durant toute sa carrière. Quel chemin parcouru, il nous raconte. Les enfants s'adaptent bien partout. Et ça a été facile pour moi de m'adapter au Mexique. J'avais en plus deux passions que les Mexicains ont en commun avec les Espagnols, c'est-à-dire le football et la corrida. J'ai voulu me consacrer professionnellement à l'un comme à l'autre, mais sans grande gloire. Puis j'ai tenté ma chance dans la musique, mais pas tout de suite dans l'opéra. Il y a eu l'opérette et la zarzuela avec mes parents, la comédie musicale. Et puis je jouais du piano dans les cabarets et les nightclubs. J'étais près du bar et j'accompagnais des copains du conservatoire sans imaginer que mon destin serait l'opéra.
Iniciarás la ambición.
romance de Javier dans Luisa Fernanda de Moreno Torroba, Placido Domingo avec l'Orchestre Symphonique de Madrid dirigé par Antonio Rosmarba. Placido Domingo chantera encore plusieurs petits rôles avant de remonter sur la scène du Palais des Beaux-Arts. Dans ce théâtre est créé en 1959 le seul opéra de Carlos Chavez, une œuvre qu'il a intitulée Panfilo et Lauretta, du nom de deux personnages du Décaméron de Boccace. Il avait en effet demandé à l'écrivain américain Chester Kallman de s'en inspirer pour écrire le livret. Le Décaméron a été écrit au XIVe siècle, alors que la peste noire a atteint Florence. Boccace y raconte 10 journées durant lesquelles une dizaine de nobles toscans enfermés dans une villa à la campagne pour échapper à la pandémie se mettent à écrire des histoires qu'ils se racontent les uns aux autres. Ce livre et cet opéra ont évidemment une forte résonance pour nous aujourd'hui. L'opéra commence par un prologue interprété par le chœur et reprend le texte de Boccace. La peste s'était déclarée dans les pays d'Orient où elle avait emporté une quantité innombrable de vivants. Elle s'était étendue d'un lieu à l'autre sans arrêt et s'était répandue malheureusement jusqu'à l'Occident. L'opéra de Carlos Chavez, écrit sur le texte anglais, s'appellera finalement The Visitors, les visiteurs. Et nous en écoutions le prologue, Mark Embry Bass, le chœur et l'orchestre de Bellas Artes, dirigé par José Areán. Dans l'opéra, les jeunes toscans imaginent de mettre en scène des pièces de théâtre, écrites avec l'aide du poète Dioneo chargé de monter les tréteaux. Dans ce théâtre dans le théâtre, comme l'a fait Richard Strauss dans son opéra Ariane à Naxos, les personnages mettent ainsi en scène leurs propres relations et les liaisons et séductions qui se trament entre eux. Comme chez Boccace, ces pièces traitent principalement de l'amour. La première narrant celle de Psyché et Cupidon. Mais la représentation est interrompue quand on frappe soudain à la porte. Totalement paniqués, les jeunes comédiens ouvrent. C'est un moine qui leur demande asile. En voyant les tréteaux, il leur suggère de mettre en scène cette fois une pièce biblique. Un moine, pour le moins étrange, qui leur propose de raconter les amours supposés entre Marie-Madeleine et un centurion romain qu'elle a converti. Cet amour, chante-t-il, fait d'eux les nouveaux Adam et Ève à l'aube d'un monde en train de naître. Oublie tes nuits sans amour. Ceci est la première nuit de la création, c'est maintenant que nous naissons vraiment. Je comprends tout à présent, s'écrie la jeune femme en se donnant à lui. La soprano Lourdes Ambris et le ténor Randolph Locke dans le duo de Marie-Madeleine et du Centurion de l'opéra Les Visiteurs de Carlos Chavez.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Le moine propose alors au jeune Toscan de mettre en scène la chute d'Adam lorsqu'on frappe violemment à la porte. Ce sont des étrangers qui demandent à se réfugier dans la villa. Le moine ouvre, les accueille et ils meurent brutalement, victimes de la peste. « On nous a trahis !» hurle la jeune Lauretta face à cette intrusion en masse. Quand l'acte 3 commence, 2 mois ont passé. La cour de la villa est pleine d'étrangers malades. Beaucoup sont mourants. Un médecin tente de les soigner. Le poète Dioneo apprend que Lauretta, qui a contracté la maladie, a été sauvée grâce à son amour pour le soldat Panfilo. L'amante de ce dernier, Elisa, qui a été conduite, est désespérée. Dioneo la console et la prie de laisser Panfilo vivre cet amour. « Tu ne l'aimes pas, lui dit-il. Le véritable amour n'a pas d'entrave. Notre vie est ailleurs. » C'est un des rares moments élégiaques de la partition. L'air du poète Dioneo de l'opéra Les Visiteurs de Carlos Chavez, interprété par le baryton Jesús Suaste. À la fin de l'opéra, les apprentis comédiens décident de représenter devant les visiteurs l'acte final de la pièce de Psyché et de Cupidon qu'ils n'avaient pas pu terminer. C'est au contact de la réalité, chante-t-il, qu'on comprend le pouvoir et le privilège de vivre et d'aimer. Ainsi, dans la pièce, Cupidon et Psyché, grâce à Vénus, vont enfin pouvoir vivre leur amour. Vénus cueille une pomme d'un arbre et l'offre à Cupidon. tous deux invitent Psyché à les rejoindre en laissant derrière eux la mortalité. Le final de l'opéra « Les visiteurs » de Carlos Chavez, les chanteurs, le chœur et l'orchestre de Bellas Artes étaient placés sous la direction de José Arreane. La première de l'opéra a eu lieu en 1957 à New York, en anglais. Il a été créé à Mexico, en espagnol, 2 ans plus tard, et repris à l'occasion des Jeux Olympiques en 1968. La version définitive a été représentée en 1999 au Mexique dans le texte original en anglais. Alors que début des années 60, malgré l'embellie économique au Mexique, les candidats au départ vers les États-Unis sont de plus en plus nombreux. Franchir illégalement la frontière devient monnaie courante, malgré les dangers. D'autre part, les braceros, les travailleurs saisonniers qui vont aux États-Unis pour les récoltes, sont si nombreux sur les routes que le gouvernement nord-américain impose soudain de nombreuses restrictions. Le nouveau président mexicain, après des voyages en Amérique latine, tente de trouver une solution à ce problème et resserre les liens avec le grand voisin du Nord. De nombreuses chansons évoquent la frontière et le sort des braceros, comme Paso del Norte, le passage vers le Nord qui désignait les villes frontalières de Ciudad Juárez au Mexique et de El Paso au Texas. Paso del Norte, c'est aussi une nouvelle de Juan Rulfo, qui raconte comment certains immigrants illégaux meurent sous les balles des gardes frontières ou des mafias locales. Triste est le sort, dit la chanson, de celui qui arrive au Paso del Norte et qui reste ensuite tellement loin de chez lui.
Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. canto. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. ¡Ay, cruel destino! Para sentarme a llorar.
La chanteuse mexicaine Eugenia León, avec le trio Los Morales, dans le Paso del Norte de Felipe Valdés Leal. Dans les saisons de concerts, il faut noter la venue à Mexico du compositeur français René Leibovitz, qui dirige le 12 mars 1957 l'orchestre philharmonique dans le premier concert symphonique entièrement consacré à l'école de Vienne. Au programme, la Nuit transfigurée de Schoenberg, des Lieders de Berg et la Sinfonia de Webern. Rodolfo Halfter avait montré le chemin. Et puis, comme l'UNESCO avait accordé une bourse au compositeur Jiménez Mabarak pour qu'il s'initie à Paris à la musique sérielle auprès de Leibovitz, et que le domaine musical, avec Pierre Boulez à Paris, avait acquis une certaine renommée dans les cercles intellectuels de la capitale, pourquoi ne pas tenter l'expérience, même devant un parterre plus clairsemé? Les applaudissements sont surtout allés à la soprano mexicaine Rosa Rimoch dans Les Lieders de Berg. Après son retour du Mexique, le très sérieux Leibovitz s'est mis à composer une sorte de boutade de plaisanterie musicale intitulée « Marijuana, variation non sérieuse ». Non sérieuse certes, mais sans tequila, semble-t-il. Première variation non sérieuse sur la marijuana de René Leibovitz par les solistes de l'ensemble Aesthesis. Même si le concert qu'il a dirigé en 1957 a été un peu boudé par le public mexicain, il a permis de confirmer les multiples talents de la grande cantatrice Rosa Rimoch, habituée à des rôles dramatiques comme Turandot de Puccini ou Lady Macbeth de Verdi, dans lesquels sa présence en scène, sa voix ample et sa technique sans faille étaient impressionnantes. Elle interprète ici l'air de Lady Macbeth, La Luce Langue. C'était lors d'un récital enregistré sur le vif à Washington en 1964. À ses côtés, l'un des plus grands pianistes accompagnateurs mexicains, Armando Montiel Olvera.
Thank you.
L'air de Lady Macbeth, La Luce Langue de Verdi, interprété par la soprano mexicaine Rosa Rimoch, magnifiquement accompagnée par Armando Montiel Olvera. En 1959, et c'est à New York que plusieurs pays d'Amérique latine se donnent soudain rendez-vous. Le chorégraphe américain George Balanchine et le producteur Lincoln Kirstein, avec qui il a fondé le New York City Ballet, s'intéressent depuis un moment déjà au renouveau des ballets latino-américains qui ont tant de succès. Ils ont alors l'idée de monter un grand spectacle latino-américain et ils demandent conseil à Carlos Chavez qui réside alors à Manhattan. Ce sera Panamericana, une série de 8 ballets sur des musiques de plusieurs compositeurs latino-américains et la participation de plusieurs chorégraphes. Chavez, par exemple, a choisi pour le spectacle un extrait de sa 5e symphonie pour cordes, créée en 1954 à Mexico et à Los Angeles. Le premier mouvement, Allegro molto moderato de la 5e symphonie de Carlos Chavez, l'Orchestre symphonique national du Mexique était dirigé par Enrique Arturo Dimeque. Aux côtés de Chavez, les compositeurs les plus connus de Panamericana sont Alberto Ginastera et Aitor Villalobos. Il y a aussi un Cubain, dont on parle de plus en plus, Julian Orbon, dont les danses symphoniques ont été choisies pour ce ballet. Elles viennent d'ailleurs de remporter un franc succès à Miami sous la direction de Villalobos, justement. Balanchine chorégraphie 3 œuvres, dont ces danses symphoniques de Orbon qui resteront au répertoire de la compagnie, tout comme les ballets de l'Argentin Ginastera et du Colombien Luis Antonio Escobar. La première de Panamericana a lieu le 20 janvier 1960 au New York City Center, dans la 55e rue. Ce soir-là, une amitié très forte s'est nouée entre Carlos Chávez et Julián Orbón. C'était la dernière des danses symphoniques de Julián Orbón. Maximiliano Valdés était à la tête de l'Orchestre symphonique des Asturies. Et on va se quitter avec une grande dame du boléro mexicain, Amparo Montes, qui, après bien des années dans les clubs et seulement quelques enregistrements, est soudain sous le feu des projecteurs depuis qu'elle chante avec la pianiste Tété Cuevas, admirée du public, au club très chic de Mexico, la Cueva, la grotte. Quand son nouveau disque sort en 1960, il se vend comme du petit pain. Amparo Montes a été la plus belle interprète de la chanson d'Agustín Lara intitulée « Nadie, personne ». Tu as ouvert les yeux au rythme doux de tes sourcils et j'ai entendu s'échapper de tes lèvres un « je t'aime ». Je sais que tu me trompes, mais je ne veux pas rompre la magie fragile de tes amours, car personne, nadie, ne saura m'embrasser comme tu le fais.
Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. no temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas.
Et c'est avec ce boléro mexicain interprété par Amparo Montes, Tete Cuevas et l'orchestre de Chucho Ferrer que nous nous quittons aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, émission qui est disponible en podcast. Attachée de production, Nelly Portal.
À réécouter sur francemusique.fr.